This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hello, c'est Sophie. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler d'une magnifique initiative lancée par Lucille. Lucille est la maman de Mickey, petite fille décédée in utero il y a bientôt 4 ans. Lucille est graphiste et elle a imaginé des faire-part spécialement dédiés aux bébés partis trop tôt. Quand on perd son enfant, on aimerait parfois pouvoir annoncer aux proches, à la famille, aux amis, cette rencontre si spéciale qui nous marquera à tout jamais. Mais bien souvent, on ne se reconnaît pas dans les faire-part de naissance traditionnels. Alors Lucille a imaginé une gamme spécialement conçue pour le deuil périnatal, car comme elle le dit si bien, les bébés qui naissent sans un souffle, ceux qui ne vivront que quelques heures ou quelques jours, ont eux aussi le droit de faire part de leur venue au monde. Vous pouvez retrouver les gammes de faire-part Agathe et Antoine sur le site internet alabamapapeterie.fr. Le lien est dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique en ligne qui propose également d'autres créations pleines de couleurs, d'amour et de délicatesse. Et maintenant, place à l'épisode.
Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruptions médicales de grossesse, de mort in utero ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
Alors, pour la petite anecdote, du coup, donc, pour ce protocole, j'ai eu 5 embryons. Donc, alors que d'habitude, j'en faisais un ou deux. Donc, 5, c'était pour moi énorme. Et sur les 5, du coup, ils en avaient congelé 2 ensemble, en fait. Logiquement, il les congèle donc séparément. Et là, il y en avait 2 qui étaient congelés ensemble parce qu'il y en avait un qui était un peu plus avancé que l'autre. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils en ont mis 2 ensemble. Donc, quand on a choisi quel embryon on allait nous transférer, du coup, on a demandé à ce que ça soit les 2 congelés ensemble qui nous soient transférés. Parce que je me suis dit, imagine, là, ça marche. J'ai un bébé. Et puis, dans 2 ans, on veut réessayer. Et là, on se tape des jumeaux. Ça va être un peu compliqué. S'il faut des jumeaux, on va faire ça de suite, quoi. Donc, on a eu les deux petits embryons. Et il s'avère que les 2 se sont accrochés. Donc, j'attends des jumeaux. Surprise, ah, tu ne le savais pas. Non, je ne t'avais pas dit. Donc, j'ai le bonheur en plus d'en avoir 2. Ouais. Donc, c'est trop, trop bien. Bon, on s'en doutait un petit peu avec les prises de sang parce que du coup, les taux étaient énormes. J'étais ah non, mais attends, je cherchais sur internet. J'étais ah non, mais attends, chérie, t'inquiète. Il y a des femmes en fonction de leur grossesse, elles n'ont pas les mêmes taux. Non, 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 non. Moi, j'étais persuadée qu'il n'y en aurait qu'un, quoi. Et à l'écho, non, non, il y en avait bien 2. Là, à l'heure actuelle, je suis, on va dire, soulagée. C'est, pour moi, on va le raconter pendant tout cet épisode, mais en fait, pour moi, c'est la fin d'un parcours et le début d'une nouvelle vie, en fait. Je suis vraiment entre les deux et même si je suis hyper fatiguée en ce moment, je commence un peu à revivre et à espérer ma nouvelle vie qui commence tout juste, quoi. Alors, ça va faire presque 2 mois, du coup, que je suis enceinte. Donc, ça fait quasiment 2 mois que je suis au courant, parce que j'ai été au courant très, très rapidement, vu qu'on est passé par un parcours de fécondation in vitro. Donc, tout est contrôlé et et tu fais les tests pipi et prise de sang hyper hyper tôt. Donc ouais, ça a été la surprise, oui et non, je sais pas comment l'expliquer. C'est, enfin, certaines se reconnaîtront, mais en fait au fond de moi je le sentais que c'était le bon moment. Je sais pas pourquoi. Ça m'a fait la même chose pour ma première grossesse. Et là, quand j'ai fait un test pipi en premier, avant la prise de sang, j'ai craqué avec plein de tests pipi avant. et je sais pas, j'ai même pas pleuré, j'ai même pas sauté de joie, je sais pas, j'étais un peu estomaquée devant ce léger positif au démarrage, quoi. Et après, bah, contente, mais en même temps toujours sur la réserve, d'être sûre que tout va bien se passer, d'être sûre que ça aille jusqu'au bout. Enfin, voilà, c'est un peu le mélange entre les deux, de l'excitation, mais en même temps du fait que tu te protèges quand même du au cas où il arriverait quelque chose, quoi.
Ça, je vous avoue que je ne m'y attendais pas, mais alors pas du tout. Ça fait des mois que cet épisode avec Flavie est prévu, ça fait même plus d'un an en fait. On s'était dit qu'il sortirait au mois de juin 2022 pour honorer la mémoire de Marie-Charlotte, sa petite fille, née le 19 juin et décédée le 27 juin 2018. C'était il y a 4 ans jour pour jour. Et puis l'enregistrement qu'on avait prévu initialement en août 2021 n'a pas eu lieu. Flavie m'a informé de son envie de quitter son travail pour se mettre à 100% sur son projet Baby Hope. Baby Hope, c'est une entreprise qu'elle a créée pour commercialiser des box destinées à donner du baume au cœur aux personnes qui sont en parcours de PMA, de procréation médicalement assistée. Comme Flavie comptait démissionner en janvier 2022, on a décalé l'enregistrement au mois de mars pour qu'elle puisse avoir un peu de recul sur cette nouvelle vie pro. Mais quelques temps avant le mois de mars, Flavie me confie qu'elle va se relancer dans la PMA pour sa 6e FIV. Et si on attendait pour voir ce que ça allait donner ? Je lui ai dit, banco, on fait ça. Les semaines passent, cette FIV lui permet d'avoir 5 embryons, mais le transfert sera organisé un peu plus tard à cause d'une hyperstimulation. Qu'à cela ne tienne, je m'adapte et on décale encore un peu. Et puis le test, eh ben, il est positif. La grossesse tant espérée débute. Ça m'émeut, je dois vous dire, d'être dans la confidence. Ça me rend heureuse pour Flavie. Ce mois de juin se profile, alors ça y est, on se lance, on enregistre et l'épisode sortira quelques jours plus tard. Et puis au bout d'1h30 d'enregistrement, elle me lance la nouvelle. Ce sont des jumeaux. 2 bébés. 2 miracles. Le 13e transfert depuis le début de la PMA, près de 4 ans après Marie-Charlotte. Ce petit secret en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Ou plutôt les 2 cerises sur le gâteau. Cet épisode, nous l'avons enregistré il y a 2 semaines. Depuis, Flavie a eu son échographie du premier trimestre et tout va bien. Flavie, c'est une warrior au grand sourire, une femme qui lâche rien. C'est la sensibilité et la persévérance, la joie de vivre et la combativité. Et aujourd'hui, c'est son histoire que l'on va découvrir ensemble. Une histoire de PMA, de deuil périnatal, de grossesse d'après et d'espoir. De beaucoup d'espoir. Au revoir podcast, épisode 30, Flavie, le parcours de la combattante. Dans cet épisode, c'est la voix de Flavie que vous allez entendre. Flavie a 34 ans et elle vit près de Toulouse avec son mari Pierre-Adrien. Flavie et Pierre-Adrien, c'est une longue histoire d'amour, une histoire qui a débuté il y a 17 ans. Mais quelques temps après leur rencontre, Pierre-Adrien est touché par une leucémie, un cancer du sang, qui le rend stérile. Depuis, Flavie sait que, pour avoir un enfant, Pierre-Adrien et elle devront passer par la PMA.
Suite à ces traitements, on a su dès le début en fait que la chimio, tout ça, allait le rendre stérile. Donc en fait, les médecins ont directement pensé à congeler son sperme. Donc en fait, ça fait des années, qu'on sait que le jour où on voudra des enfants, ce sera possible, vu qu'il a pu heureusement congeler son sperme, mais qu'on devrait passer par un parcours de procréation médicalement assistée et notamment la fécondation in vitro. Sachant que tous les deux, on a fait des études de biologie, c'est quelque chose qui nous a pas fait peur. Sur le coup, nous, ce qui nous importait, c'était qu'ils s'en sortent, qu'ils vivent et voilà, qu'ils soient en bonne santé. C'est sûr que ça te met quand même un coup parce que bon, ça te fait peur quand même. On savait quel était le processus, on savait que c'était possible, on savait qu'il y avait plein de gens avec des bébés grâce à la PMA. Donc, en soi, voilà, on savait que le jour où on voudrait, on avait juste en gros à appeler l'hôpital et puis à lancer les démarches, quoi. Et personnellement, je pensais que ça allait être très simple finalement, voire plus simple que des essais naturels, vu que tout était contrôlé et qu'en soi, on n'avait pas de problème particulier à part le fait de la rencontre des gamètes, quoi. Donc ça voilà, c'était il y a longtemps. Et puis du coup après il a été en rémission, tout va bien, il va très très bien maintenant. Et donc on s'est mariés et après le mariage du coup on s'est dit bon bah voilà, ça serait le moment de faire un petit bébé. Donc tout simplement après j'ai contacté là où il avait dû conserver du coup son sperme et puis savoir comment ça se passait, les démarches. Enfin pour moi ça allait limite 2 mois après tu vois ça y est c'était bon, j'allais être enceinte. Et en fait, non, c'est un petit peu plus compliqué que ça, finalement. On se rend pas forcément compte. Il m'a fallu quasiment 1 an, en fait, pour entre mon premier appel téléphonique et mon premier essai, en fait. Tout simplement parce que le temps que tu passes devant plein de médecins pour faire un check-up, tout ça, qu'on t'explique, les délais sont super longs. C'était 3 mois par rendez-vous. Enfin, bon, voilà, ça a pris beaucoup de temps. Et ça, c'était fin 2014 où on s'est lancé. Et donc, du coup, on s'est lancé, une fille, moi, franchement, je pensais que ça allait marcher du premier coup. Les médecins étaient hyper confiants aussi, vu que moi, de mon côté, j'ai pas d'endométriose, j'ai rien de mon côté. Donc, pour moi, c'était, gagné d'avance, quoi. Et en fait, tu tombes de haut dès que t'as le premier essai qui marche pas. Là, je me suis dit, oula, en fait, ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu.
Plus compliqué que prévu et plus long aussi. Car c'est ça la PMA. On sait quand ça débute, mais l'issue reste malgré tout incertaine. Fin 2014, le couple se lance, entame donc les démarches, mais les mois s'écoulent. 3 fécondations in vitro et 7 transferts d'embryons plus tard, Flavie est enfin enceinte. Elle apprend la nouvelle dans un contexte assez particulier. Les résultats de la prise de sang tombent alors qu'elle est hospitalisée suite à une hyperstimulation ovarienne, qui est une complication du traitement de stimulation. Lors d'une hyperstimulation, le corps réagit très fortement au traitement et les ovaires grossissent, sont douloureux, le ventre peut lui aussi grossir énormément et on peut dans certains cas avoir des difficultés pour respirer. Bref, ce sont des symptômes qui sont loin d'être anodins et qui nécessitent une prise en charge adaptée et parfois une hospitalisation. Selon les cas, cette hyperstimulation, ou hyperstim, comme on dit parfois, peut être provoquée de manière exogène par des injections d'hormones HCG utilisées pour le déclenchement de l'ovulation. Mais elle peut aussi être provoquée de manière endogène lorsqu'une grossesse débute et que le corps sécrète lui-même cette hormone. L'hyperstimulation est alors plus tardive, 10 à 12 jours après le déclenchement. C'est le cas de figure dans lequel se trouve Flavie, fin 2017.
Du coup, c'était en octobre 2017, où j'ai appris que j'étais enfin enceinte. Donc là, c'est juste la folie, t'es trop contente. Enfin, franchement, c'est... après la maladie de ton chéri, tu te dis, ça y est, t'as le droit enfin au bonheur. Et puis, finalement, j'ai pas eu une grossesse qui s'est passée comme je le souhaitais, parce que c'est vrai que t'attends beaucoup, en fait, de tomber enceinte. Mais après, tu t'as pas forcément la grossesse que tu rêves derrière. Donc moi j'avais fait, en fait ça s'appelle une hyperstimulation. Déjà suite au traitement, j'ai un peu trop réagi au traitement, donc j'avais été hospitalisée 1 semaine. D'ailleurs c'est à l'hôpital que j'avais appris que j'étais enceinte. Comme j'étais tombée enceinte, du coup ça s'était aggravé, donc j'avais été suivie, tout ça. Donc les 3 premiers mois ont été un peu douloureux au niveau du ventre, parce que j'avais les ovaires qui avaient en fait explosé, trop réagi au traitement. Quand tu ovules naturellement, tu ovules un seul ovocyte. Et en fait, nous, quand on est en PMA, le but, c'est d'en faire plein. Donc, genre, j'en avais fait 20, quoi. Donc, mes ovaires étaient au taquet. J'ai eu le ventre qui a gonflé. Pour faire simple, en gros, c'est du liquide qu'il y a à l'intérieur de tes ovaires qui s'échappe dans ton ventre. Donc, ça te fait gonfler le ventre. Donc, en fait, j'étais allée aux urgences parce que j'avais des douleurs au ventre qui étaient vraiment... t'avais vraiment mal, donc tu savais que voilà, c'est des risques. Donc, j'avais été suivie et on m'avait dit, si jamais j'ai du mal à respirer, il faut vraiment que j'y retourne. Parce que là, c'est plus grave. Bon, moi, j'ai eu la chance de que ça soit contrôlé en une bonne semaine à l'hôpital. Ça a été maîtrisé. Ça s'est pas aggravé, donc j'ai pu sortir. Mais on va dire qu'il a fallu 3 mois à mes ovaires pour réduire de taille, quoi. On va dire qu'il faisait 12 centimètres chacun. C'est un peu énorme. Quand tu es en parcours comme ça, on te donne une date où tu dois faire une prise de sang, justement des bêta-HCG, pour savoir si c'est positif, si tu es enceinte. Et en fait, ce jour-là, tombé pendant mon hospitalisation. Donc du coup, c'est les infirmières qui me l'ont annoncé. Et mon mari était même pas avec moi à ce moment-là dans la pièce. Parce que je lui avais demandé d'aller m'en acheter un test pipi à la pharmacie parce qu'il mettait 3 plombes à me donner les résultats. Donc du coup, c'est des annonces où, ouais, c'est pas du tout comme tu penses, tranquille à la maison, t'annonces ça à ton chéri, enfin... Voilà, c'est bon, c'est un peu particulier, mais bon, tu sais très bien que voilà, c'est ça se passera pas comme une grossesse naturelle, on va dire, voilà. Mais c'est moins grave parce que bon, t'attends ça tellement avec impatience que du coup, t'es quand même super contente et tu te dis qu'au moins t'as pas vécu tout ça pour rien, quoi. C'est voilà, c'est la consécration.
Une fois la situation sous contrôle, Flavie peut sortir de l'hôpital et les semaines filent. La prochaine étape, c'est la T1, l'échographie du premier trimestre, à 12 semaines d'aménorrhée environ. Mais le médecin se rend compte que le cœur du bébé présente une anomalie. Les examens s'enchaînent et il faut attendre que l'enfant de Flavie et Pierre-Adrien grandisse et se développe pour préciser le diagnostic. Finalement, le couple apprend que le bébé souffre d'une coarctation de l'aorte, c'est-à-dire un rétrécissement de l'artère principale qui va du cœur au corps. Une pathologie qui, normalement, peut être opérable, leur explique-t-on.
On savait que ça nécessiterait une opération à sa naissance, qu'autant qu'elle était dans, que tant que bébé, parce qu'on ne savait pas le sexe hein, pendant toute la grossesse, on s'était gardé la surprise, que tant que bébé était dans mon ventre, il n'y avait pas de problème. Mais c'était après, quand viendrait la naissance, que du coup, il faudrait l'opérer pour lui réparer son cœur et que, bah, en théorie, tout doit bien se passer. C'est des opérations qui se font régulièrement. Enfin, voilà. Et après, l'enfant vit voilà, presque normalement derrière, juste avec un suivi cardiaque un peu toute sa vie. Mais voilà. Là-dessus, bah, on a eu directement des spécialistes, voilà, un cardiopédiatre. On était très bien suivis. Donc, j'avais fait une amniosynthèse aussi. Et du coup, c'était pas génétique. Il y avait rien d'autre derrière, quoi. Ça cachait rien d'autre. Donc, voilà, on savait qu'il y aurait une opération. Mais par contre, tu sais pas quand, quoi. Est-ce que ça serait dès la naissance, une semaine après, 2 mois après? Enfin, en fait, même eux ne pouvaient pas le dire tant que bébé n'était pas sorti, parce que c'est pas évident d'aller voir vraiment le cœur de bébé à travers ton ventre, en fait. Donc, bah, après, du coup, j'ai vécu une grossesse, on va dire, normale, avec des suivis pour, voilà, suivre l'évolution du cœur, mais sinon, le reste était normal, quoi. Et bon, du coup, c'était un peu compliqué de se projeter quand même, parce que, du coup, tu sais pas après accouchement, comment ça va se passer. En plus, on était en plein déménagement, on était en train de faire construire une maison, donc, enfin, on n'avait pas encore sa chambre. Enfin, c'était vraiment, on était un peu dans le flou total. Et moi, je me disais, bah voilà, on verra bien comment ça se passera au moment de l'accouchement. Donc, j'ai eu voilà, un accouchement, on va dire, tout à fait normal. J'ai eu une césarienne programmée parce qu'elle était en siège, la coquine. Et en plus, du coup, j'ai pas le droit à la péridurale parce que j'ai une scoliose. Donc, du coup, entre pas de péridurale, le fait qu'elle était en siège et son petit problème au cœur, on voulait pas la fatiguer non plus. Donc, on a programmé une petite césarienne qui s'est très bien passée. Voilà, naissance nickel, c'est là qu'on nous a annoncé que c'était une fille. J'étais trop contente. Donc voilà. Et là, du coup, ils ont pu lui faire une écho à elle, en fait, directement, voir son petit cœur à elle. Et là, en fait, il s'est avéré que c'était un peu plus important que prévu. Donc, l'opération allait être plus compliquée. Et en plus, elle était assez petite à la naissance. Elle faisait que 2,1 kg. Donc, ça restait vraiment une petite crevette. Donc, en fait, c'est vraiment à la naissance où un peu tout nous est tombé dessus. Parce que, du coup, là, on a vraiment rencontré le chirurgien qui nous a expliqué toute l'opération, qui fait flipper parce que c'est à cœur ouvert, tout ça. Enfin, tu te dis, waouh, 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 dans quoi je suis? On nous annonce plus d'un mois en réa néonate. Enfin, je veux dire, là, tu flippes vraiment, quoi. Pour moi, c'était, voilà, elle allait juste avoir une petite opération après la naissance et ça allait aller, en fait. Là, c'était, finalement, ça devenait une grosse opération, risquée, parce qu'en plus, il nous avait dit, voilà, déjà sur un bébé de 3 kilos, c'est déjà pas facile, mais là, en plus, elle est encore plus petite, elle mangeait pas bien, enfin, on risquait de la perdre. Alors que pendant toute la grossesse, je t'ai dit que oui, ça allait être compliqué, on risquait d'avoir un début de vie avec bébé compliqué, mais jamais je me disais qu'on risquait de la perdre. Et là, finalement, tu te rends compte vraiment de ce qui peut se passer, mais en te disant que au fond de toi, non, c'est pas possible. Ça te paraît irréel qu'un bébé en fait puisse décéder.
Pendant son premier jour de vie, Marie-Charlotte reste aux côtés de ses parents avant d'être transférée dans le service de réanimation néonatale. Elle sera opérée à 8 jours de vie. Pendant une semaine, Flavie essaie de prendre sa place de maman auprès de ce bébé branché à des machines qui surveillent son rythme cardiaque, son rythme respiratoire, le taux d'oxygène dans le sang.
Avec mon mari, pour aller la voir, on descendait en fauteuil roulant parce qu'après une césarienne, du coup, j'étais un peu faible. On pouvait aller la voir quand on voulait. Mais c'est vrai que c'était un peu... il y a des fois, je me dis, en fait, c'est pas que je m'en suis pas occupée plus que ça, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir mon rôle de maman parce qu'en fait, le bébé était pas avec nous. Fallait qu'on demande l'autorisation d'aller voir son bébé, demander l'autorisation pour l'avoir dans les bras, parce qu'il a été branché de partout. Enfin, moi, un bébé, c'est mon premier bébé. Enfin, mon mari non plus, on sait pas comment faire. Hein. Donc, elle faisait que de dormir. Finalement, elle mangeait pas. Donc, c'est vrai qu'on était finalement, après, on passait nos journées assis à côté d'elle et on attendait que les journées passent, quoi. Enfin, c'était un peu bizarre, quoi. Et après, ça, j'arrive pas trop à me souvenir si, mais je pense que je suis rentrée à la maison. Après, on faisait des trajets pour aller la voir. C'était un peu bizarre. C'est vrai que le fait de pas l'avoir à côté de toi, c'est. T'as du mal à t'attacher, en fait. Mais après, je me dis que finalement, même pendant toute la grossesse, quand je m'en souviens, ne pas savoir le sexe, du coup aussi. Tu t'attaches pas pareil au bébé. Le fait que tu sais pas comment ça va se passer. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est mon corps qui sentait qu'il allait avoir quelque chose et qui se protégeait au fond? Ouais, je sais pas comment expliquer ça. Je pense que les gens comprendront. Mais ce que je veux dire. Donc, on garde quand même des bons souvenirs de cette semaine où, voilà, on sait qu'elle a pas souffert. On sait que, voilà, on a pu aller la voir. J'ai plein de photos, plein de vidéos. Enfin, voilà, quoi. C'est des bons souvenirs quand même. Qui nous reste gravé avec elle, quoi. Et en fait, ouais, elle est partie le matin, je sais plus, vers peut-être 7-8 heures du matin, et on nous a appelé à 22h30, quasiment 23h, ouais, hyper tard. L'opération a duré toute la journée pour nous dire que malheureusement, ça a été très compliqué. En fait, ils ont réussi à lui réparer son petit cœur, mais en fait, après, ça, la machine n'est jamais repartie, quoi. C'est la fin du monde, t'as l'impression que tu viens... T'es sur une autre planète et ils te demandent de venir sur place après. Donc, on s'est déplacé, il était plus de minuit et on a vu le chirurgien, tout ça, toutes les équipes. Et le chirurgien qui était les larmes aux yeux. Enfin, je veux dire, là-dessus, c'est vrai que j'ai aucun regret ou j'en veux à personne parce que je sais qu'il a fait tout son possible et que, ça n'a pas marché, quoi. Donc, ouais, du coup, du jour au lendemain, t'as tout qui s'arrête. Enfin, c'est un peu le néant total. Mais je pense qu'après, dans beaucoup de tes épisodes, c'est ce que les mamans aussi racontent. Mais c'est t'as l'impression d'avoir rêvé tout ce qui vient de se passer, que t'as pas eu de grossesse, que je sais pas. C'était pour moi, c'était tellement irréel. Jamais de la vie, j'aurais pensé que ça pouvait se finir ainsi, en fait. Et puis même tous nos proches, parce que finalement, à nos proches, on avait inquiété personne plus que ça non plus. Donc ça a été ça a été juste dingue, quoi. C'était il y a 4 ans, le mois de juin. Elle est née le 19 juin et décédée le 27. Au moment où l'épisode sort, ça me permet de lui fêter son petit anniversaire aussi. C'est assez dingue, j'ai l'impression que c'était encore hier, hein.
Il y a 4 ans, jour pour jour, Flavie et Pierre-Adrien s'apprêtaient, sans encore le savoir, à dire au revoir à leur petite fille. L'après, c'est un effondrement. C'est le deuil, c'est le congé maternité comme on n'en parle jamais dans les livres. Ce sont des lendemains sans aucun repère. C'est même le retour à la case départ. C'est en ces termes que Flavie décrit l'impression qu'elle a ressentie lorsqu'elle est rentrée chez elle, les bras vides. Marie-Charlotte, elle a existé, rien n'est fictif. Mais c'est comme s'il fallait repartir de zéro et tout reconstruire. Pas seulement les derniers mois, les mois de la grossesse, mais les dernières années, les années d'essai, les années de PMA. Quand les transferts d'embryons débouchent sur des échecs à répétition et que le temps s'étire de plus en plus, Il est difficile de faire abstraction de ces mois passés en protocole de procréation médicalement assistée lorsque l'on perd un bébé. C'est la double peine. Car Marie-Charlotte, Flavie ne l'a pas attendu que 9 petits mois, elle l'a attendu pendant 3 ans.
J'avais envie de rien, de voir personne de toute façon. J'avais envie de rester qu'avec mon chéri. Mon mari avait quitté son boulot au même moment où moi j'étais en congé maternité pour se reconvertir en fait. Il a vécu la fin de du congé mat avec moi et tout le après avec moi aussi. J'ai jamais été seule en fait chez moi. C'était même la période où c'était la Coupe du Monde de foot, je me rappelle. Et heureusement. Ça nous a sauvés aussi, parce que finalement, on passait nos journées à regarder ça, en fait, même si on n'est pas plus fan que ça. Ça nous a occupé nos journées à passer le temps. Mais ouais, t'es complètement déconnectée. J'ai eu l'impression de retomber, ouais, c'est ça, 3 ans avant, quoi. Comme si ma vie pendant 3 ans n'avait pas été vécue et que j'avais tout à recommencer, en fait. Après, du coup, on a réussi à partir un tout petit peu en vacances avec mes parents, histoire de nous changer un peu les idées, parce qu'au bout d'un moment, être enfermé en plus dans un tout petit appart, c'était très compliqué. Donc, j'ai eu envie de reprendre le boulot plus tôt aussi. J'ai dû reprendre peut-être 15 jours avant la fin de mon congé maternité. Ça a été très compliqué pour moi de retourner au travail, surtout que je gérais des équipes. Tout le monde m'avait vu partir enceinte et tout ça. Tout le monde avait été au courant de la naissance, parce qu'en plus, nous, en 8 jours, on a eu le temps de l'annoncer à tout le monde. Ouais, on a une fille, c'est trop bien. Et une semaine après, t'es obligé d'annoncer le décès à tout le monde. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, j'avais toutes mes salariées qui n'étaient pas forcément au courant. Donc, revenir au boulot, waouh, ça a été pour moi très compliqué. En tout cas, au démarrage, le regard des collègues, tout ça, même si j'ai eu un soutien, vraiment au top du top. Mais j'avais besoin aussi de m'occuper l'esprit, donc besoin de m'occuper, de penser à autre chose en fait. Et c'est vrai que je me suis beaucoup plongée dans le travail.
Quand on perd un bébé, il y a le deuil à traverser et parfois, et même souvent, l'envie d'une nouvelle grossesse à gérer. Cette envie, elle peut être viscérale. Et quand on retourne en PMA, c'est alors le choc des temporalités. Le sentiment d'urgence que l'on a parfois se fracasse contre la lenteur des démarches et des protocoles, couplé à l'incertitude. Et puis, il y a la question de la césarienne. En général, les médecins préconisent d'attendre environ 1 an avant une nouvelle grossesse, afin que l'utérus soit bien cicatrisé. Flavie, elle est prête pour repartir au combat. Mais ce combat, il ne peut pas avoir lieu maintenant.
Pour retomber enceinte, ça a été très vite pour moi, cette envie de redonner la vie, en fait. Je crois que c'était 1 mois après, j'avais déjà envie de repartir à retomber enceinte, en sachant qu'en plus, on avait mis 3 ans pour y arriver, donc on savait pas comment ça allait... Comment ça allait marcher. Sauf que quand j'ai eu rendez-vous avec mon obstétricienne après l'accouchement et qu'on te dit qu'en fait, après une césarienne, t'es obligé d'attendre 1 an pour retomber enceinte. Et là, c'est la fin du monde, en fait. Tu te dis, mais c'est pas possible, en fait. T'es obligé d'attendre 1 an. Alors, je ne dis pas tous mes calculs. J'étais, oui, mais attends, si je tombe... je cherchais partout sur Internet. Il y en avait qui tombaient enceintes dans les 3 mois. Parce que du coup, les 9 mois de la grossesse plus les 3 mois d'attente, ça faisait 12 mois. Non, mais enfin, j'étais comme une dingue. Sauf qu'en fait, on me refusait de repartir en PMA avant les 1 an. Enfin, ouais, hyper, hyper compliqué. Donc, je me suis plongée à 200% dans le travail. Je me suis oubliée dans le travail même. Le plus dur, c'est plutôt le fait que de te dire que de toute façon, tu peux pas tomber enceinte naturellement. C'est-à-dire que si les médecins te disent que non, tu n'as pas le droit de reprendre la PMA avant 1 an, dans tous les cas, toi, tu as beau essayer naturellement de tomber enceinte, tu n'y arriveras pas, ton mari est stérile. Et moi, ce qui était dur, c'est de me dire que en fait, c'est pas moi qui décide de quand est-ce que j'ai mon enfant, c'est encore les autres, quoi. Et te dire, mais au vu de ton parcours, plus donc tu as galéré à tomber enceinte, plus en plus tu perds ton bébé, t'as pas de passe droit, quoi, en fait. C'est vraiment, tu retombes comme tout le monde. Allez, recase à zéro, tu attends 1 an, tu vas encore regalérer pour tomber enceinte. C'est plus ça, en fait. C'est le fait de pas pouvoir maîtriser tes choix et de pas faire comme tu veux. Parce qu'en soi, sinon, je pense que j'aurais pu tomber enceinte comme je voulais. C'est pas que ça aurait été moins dur, mais là, je me disais, ça se trouve, j'y arriverai jamais à retomber enceinte derrière, ou peut-être qu'on sera obligé de passer par l'adoption, ou là, tu te dis, peut-être que j'en aurai jamais d'autres, et le seul que j'ai eu, il est mort. Il y a des trucs, il y a tellement de trucs qui te passent par la tête, mais ouais, le fait de pas pouvoir maîtriser, surtout qu'à l'époque, moi, je voulais tout maîtriser, donc c'était très compliqué pour moi, voilà, de pas pouvoir faire comme je veux au vu de notre parcours, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas quoi, c'est, pour moi, c'était tellement inhumain. Bon, après, pour la petite histoire, j'ai réussi à reprendre au bout de 10 mois. J'ai réussi à carotte 2 mois. Mais bon, voilà, parce que bon, la gynéco de PMA, en fait, elle savait pas, enfin, finalement, elle savait pas plus que ça par rapport à la césarienne, quoi. Donc, c'est moi, finalement, quand l'obstétricienne m'a dit, bah non, pas avant 1 an, j'avais repris rendez-vous 10 mois après parce que je m'étais dit, bon, bah, le temps après de refaire les papiers, machin et tout. Mais je suis sûre que j'aurais pu presque peut-être reprendre un petit peu avant. Après, voilà, c'est comme ça. Je sais aussi que, au fond, il faut aussi du temps. Le but, c'était pas non plus de risquer ma vie sur une nouvelle grossesse, à retomber enceinte direct. Enfin bon. Mais c'est tout un mélange un peu d'émotions et de pensées qui sont compliquées, ouais, à ce moment-là, de pas pouvoir reprendre les essais rapidement, quoi.
Pendant ces longs mois qui la séparent de la reprise de la PMA, Flavie le dit elle-même, elle a eu besoin de se plonger dans le travail, quitte à s'oublier. Mais elle a aussi nourri un autre projet professionnel, cette fois-ci directement inspiré de son propre parcours. Un moyen pour elle de cheminer, de faire de nouveaux projets. En juin 2019, Baby Hope voit le jour. Baby Hope, ce sont des box qui accompagnent les personnes en parcours PMA avec des cartes étapes, des bouillottes pour soulager les maux de ventre, des pochettes isothermes cousues main par Flavie pour transporter les injections lorsque l'on est en déplacement ou au travail. Baby Hope, c'est une petite dose supplémentaire de motivation. C'est du baume au cœur. C'est aussi une communauté qui se retrouve sur Instagram pour parler de PMA et échanger des bons plans. Pour Flavie, c'est un moyen de mettre un coup de projecteur sur la procréation médicalement assistée, de créer des liens avec des personnes qui galèrent à avoir un bébé et de donner de la visibilité à ces parcours de vie qui durent bien souvent des années.
J'ai toujours eu besoin de projets pour avancer, d'avoir l'impression que ma vie, qu'il y a des choses qui vont se passer dans ma vie, quoi. Là, on venait de construire la maison, tout ça. Donc, en fait, là, on était en fin de projet. On n'avait plus rien. C'est-à-dire, on n'avait plus de bébé. On venait d'avoir la maison. Donc, OK, il y avait des travaux. Mais, enfin, voilà, il n'y avait plus de nouveaux projets. Vu qu'en plus, ce nouveau projet bébé, voilà, t'es obligé d'attendre. Et j'avais besoin aussi de, comment dire, que ce qui s'était passé ne serve pas à rien. J'avais besoin qu'il y ait un but dans tout ça. Tu sais, la fameuse question, le pourquoi. Pourquoi ça t'arrive à toi? Pourquoi en fait? Et j'avais besoin de répondre à cette question. Et ça m'est venu en fait, c'était en février, donc tu vois, on l'avait perdu au mois de juin, et en février d'après, en fait, j'ai eu l'idée justement de créer Baby Hope. Bon, ça fait des années hein, que je rêve d'entrepreneuriat. J'avais déjà eu deux petites entreprises, une de création de bijoux au moment où mon mari était tombé malade, justement pour nous occuper, pour échanger un peu les idées. Et après, du coup, on s'était lancé aussi en tant que photographe de mariage, tous les deux, pendant les essais bébés, justement parce qu'on avait besoin aussi de faire des choses. Et que j'ai dû arrêter du coup quand je suis tombée enceinte. Avec tout ce qui nous est arrivé, franchement, bah déjà la maladie de mon chéri, ça nous a tellement changé l'idée de la vie où tu te dis que du jour au lendemain, tout peut arriver. Quand on a su qu'il était malade, c'était vraiment du jour au lendemain. Et on nous a dit que limite, 3 semaines après, il serait mort si on n'avait rien fait, quoi. Donc tu te dis que, waouh, en fait, ouais, bah, il faut faire plein de choses dans ta vie parce que tu ne sais pas si tu vas pouvoir les refaire après, quoi. Donc, c'est vrai que je suis du genre comme ça à foncer et à faire, si je peux, bah, je fais ce que je peux. Et donc, du coup, c'est vrai que, en fait, quand tu tombes enceinte, tu as le monde de la maternité qui s'ouvre à toi. C'est trop bien. Il y a plein de trucs pour les femmes enceintes, plein de trucs pour les bébés. C'est tellement magique. C'est trop bien. Tu peux te faire voilà, plein de cadeaux. Tu peux te faire plaisir. Et en fait, quand tu retombes dans les essais bébés, bah, tu retombes dans le néant. Il n'y a rien. Voilà. Tu es plus rien. T'as l'impression, en fait. Et je me suis dit, mais moi aussi, je veux me faire plaisir, en fait, dès maintenant que je reprends mes essais bébés. Je reprenais la PMA, vu que j'avais eu mon rendez-vous en janvier. Et donc, ça y est, je repartais dans mes essais. Il nous restait, du coup, des embryons congelés des essais de Marie-Charlotte. Pour moi, c'était la fête, en fait, de repartir en PMA. Je sais qu'il y en a beaucoup où c'est compliqué, c'est dur, c'est triste. Mais pour moi, j'étais tellement heureuse, vu que de toute façon, peux pas tomber enceinte naturellement. Donc du coup, j'avais envie de mâcher des petits cadeaux par rapport à ça, des petits porte-bonheur, tout ça. Et en fait, je voyais que j'avais du mal à trouver ça sur Internet ou des créatrices. Ou alors, tu trouves ça sur un site à droite, à gauche, mais c'est un peu galère, tu vois, pour trouver à un même endroit. Et donc, du coup, je me suis dit, mais pourquoi en fait, je fais pas un site où je regroupe tous ces trucs sur la même plateforme pour que ça soit facile et puis pour échanger avec plein de monde. J'avais aussi envie de que ça soit reconnu que des fois on a du mal à tomber enceinte et que on peut se faire plaisir et on peut garder une trace aussi de tout ça. En fait, c'est beaucoup de choses qui se sont mélangées. C'est-à-dire que pour Marie-Charlotte, j'ai fait un album après, un album photo de ma grossesse et de ces quelques jours de vie. Et le début de l'album, j'ai raconté mon histoire de PMA, du coup. Et en fait, cet album, je l'ai offert à mes parents, mes beaux-parents, pour leur expliquer aussi qu'ils se rendent compte un peu du parcours qu'on avait vécu. Et en fait, j'avais très peu de photos finalement de tout mon parcours PMA alors que ça avait duré 3 ans. Et là, pour cette nouvelle grossesse, j'avais envie de prendre des milliers de photos et de vraiment pouvoir raconter à ce futur enfant tout le parcours qu'on allait faire pour l'avoir en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire des cartes étapes. C'était au départ vraiment pour raconter aussi l'histoire de ce bébé et de mettre en avant tous ces parcours compliqués. Et comme je te disais, j'avais envie de faire quelque chose pour fêter Marie-Charlotte, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu créer absolument la boutique, sortir le site internet le jour de son premier anniversaire. Pour moi, c'est vraiment, c'était important que finalement son passage sur Terre serve à quelque chose et finalement serve à plein d'autres femmes. Faire un lien. Et c'est vrai qu'avec les années, on va bientôt fêter les 3 ans de Baby Up et donc les 4 ans de Marie-Charlotte. Et je me dis, en 3 ans de temps, toutes les femmes que j'ai pu soutenir, que j'ai pu peut-être leur redonner le sourire, je me dis, c'est grâce à Marie-Charlotte, en fait. Donc, même si, je me serais bien passée de la perte de ma fille, je me dis qu'au moins, ça a servi un petit peu à quelque chose et ça m'apaise, en tout cas. Sur ce qui s'est passé. Ça me donne un but. Je pense qu'on a toutes le pourquoi, j'ai peut-être trouvé, même si je trouve ça on s'en passerait bien et tout ça, mais pour moi, en tout cas, ça m'a aidé à avancer aussi dans le reste de ma vie.
Plusieurs mois après le décès de Marie-Charlotte, Flavie repart en PMA. Suite à la FIV qui lui avait permis d'être enceinte, 4 embryons avaient été congelés et Flavie espère vraiment que l'un d'eux deviendra le petit frère ou la petite sœur de sa fille. Elle est confiante, elle y croit. Mais hélas, ça ne marche pas. Et c'est de plus en plus dur pour elle de retourner dans ce centre PMA qui réactive tant de souvenirs et dans lequel elle se sent de moins en moins écoutée. S'ajoute en plus l'envie de reprendre le contrôle sur certains aspects de ce parcours ultra médicalisé.
J'y allais confiante en me disant, ça a marché une fois, vas-y, là, ça va remarcher. Tout le monde te dit, après un retour de couche, tu tombes enceinte plus facilement, blablabla, blablabla. Donc je m'étais dit, je vais pas galérer autant à retomber enceinte quand même, c'est pas possible. Là, en plus, quand je suis tombée enceinte de Marie-Charlotte, j'avais un traitement un peu adapté et tout. Je m'étais dit, c'est bon, j'ai trouvé le traitement de la gagne. Je sais comment on fait des bébés maintenant, tu vois. Donc, j'y allais ça va marcher assez vite. Et en fait, non. Quand on a eu épuisé tous les embryons qui nous restaient, de la portée de Marie-Charlotte, ça a été dur de me dire qu'en fait, ce futur enfant n'aurait pas les liens. Pour moi, ce lien particulier. Et de devoir retourner dans une nouvelle FIV, du coup, c'est là que j'ai voulu commencer un peu à prendre les rênes. C'est-à-dire que là, arrêter de subir, la PMA et de, moi, un peu décider aussi de ce que je voulais, quoi. Donc là, j'ai demandé à avoir des examens complémentaires quand j'y réfléchis depuis le début. C'est mon mari le problème, mais moi, en fait, on n'a jamais cherché si j'avais un problème. J'ai eu 2-3 prises de sang et c'est tout. Et avec Instagram, tu commences à parler à droite, à gauche avec plein de filles et te rendre compte, mais ça, j'ai pas fait. J'en étais à 10 transferts d'embryons en tout et j'avais toujours pas d'enfant dans les bras. Alors, la gynéco te disait, mais oui, mais ça a marché une fois, ça va remarcher. Mais en fait, j'ai pas envie d'attendre encore que ça marche au bout de la 7e fois. Donc, ça faisait 10 transferts et quand je me renseignais, en fait, il y avait beaucoup de centres de PMA, au bout de 2 ou 3 transferts négatifs, ils se posaient déjà des questions. Sauf qu'en fait, la gynéco à l'époque, déjà au début du rendez-vous, elle te dit « Mais de toute façon, vous avez déjà un enfant, madame. » Donc là, tu as envie de la claquer parce que tu te dis « En fait, elle n'a pas lu ses notes. » Et je dis « Non, elle est morte. » Non, mais gros froid, quoi. Enfin, je veux dire, tu te dis « Elle ne lise même pas les dossiers, quoi. » C'est... Ouais, là, ça m'a choquée. Et elle a voulu me faire aucun examen. Et donc, ça, j'ai fini en larmes dans le bureau de la gynéco. Je me suis mais c'est pas possible. Parce que j'ai pleuré, du coup, elle a accepté de me faire un examen que, voilà, qui était payant de ma poche. Mais voilà, sans grande conviction. Enfin, voilà, ça m'a vraiment un peu dégoûtée. Je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Enfin, je peux pas continuer comme ça, enchaîner sans rien faire. Donc, bon, j'ai fait cet examen. Il s'est avéré qu'il y avait, voilà, un petit quelque chose. Donc, ça m'a donné une petite piste pour continuer. Et après, bah, malheureusement, il y a eu le Covid. Le confinement, c'était un lundi. Je devais reprendre la FIV le mardi, quoi. Donc, j'étais au bout de ma vie. Enfin, bon, comme tout le monde, quoi. Ça a été toutes celles qui étaient voilà, dans ces parcours-là. Tout a été annulé. Ça a été voilà, très, très compliqué. Donc, je me suis encore à attendre. Non, c'est pas possible. Et en fait, au moment où j'aurais pu reprendre, enfin, voilà, je me suis présentée au centre PMA pour aller chercher une ordonnance parce que personne ne me répondait au téléphone. Et en fait, sur place, quand j'y suis allée, bah, tu sais, Covid. Donc, du coup, tu étais filtrée à l'entrée de l'hôpital. Pourquoi vous venez? Bah, j'avais dit, bah, je viens pour une ordonnance. Donc, on m'avait laissé passer. Je me suis fait engueuler par le centre PMA. Pourquoi j'étais venue alors que j'aurais pu appeler? Enfin, bon, ça a été, pour moi, ça a été vraiment le truc en trop. J'avais l'impression de bien faire et en fait ouais ça allait pas. Je fais non mais en fait plus jamais. Je fais là je vais partir et j'ai eu envie de changer de centre parce que j'avais envie de reprendre mon parcours en main. J'avais envie d'aller de l'avant. Et avec Instagram on m'avait beaucoup recommandé un autre centre qui était très loin de la maison à 3 heures de route. Donc je suis à côté de Toulouse et on m'avait recommandé Montpellier. Je dis, ah, mais les filles, elles vont à Montpellier, elles font 3 heures de route. Je dis, mais elles sont folles. Et en fait, bon, c'est ce que j'ai fait, quoi. Donc, voilà, j'ai pris rendez-vous avec un nouveau centre. Je me suis dit, voilà, on repart à zéro. Ça a été au top. Et une rapidité des rendez-vous. Donc, j'ai pu rapidement voilà, reprendre une FIV. Donc, première FIV, tu te dis, ouais, nouveau centre et tout, c'est bon, ça va marcher, truc de dingue. Et non, toujours pas. Donc pareil, il faut savoir que en fait, en France, t'as le droit à 4 FIV remboursées par la sécurité sociale aussi. Donc t'as pas non plus aussi un stock illimité, sachant que pour Marie-Charlotte, j'étais à la 3e FIV. Donc déjà, je flippais. Sauf qu'en fait, il faut savoir que quand on a un enfant, on retombe à zéro. On a le droit à 4 FIV par enfant. Donc finalement, une fois que j'avais épuisé les embryons qui me restaient, finalement, j'avais le droit de repartir à 4 FIV. Et heureusement, parce que tu te dis que sinon, ça aurait été fichu pour moi. Donc, première FIV à Montpellier ne marche pas. Toute petite accroche, mais ne marche pas. Donc, tu te dis, bon. J'ai refait des examens. Deuxième FIV, ça ne marche pas.
Une dizaine de transferts, 5 protocoles de fécondation in vitro. Une vie qui tourne beaucoup autour de la PMA, en plus du boulot et de tout le reste. Le deuil périnatal. Des années entre espoir et déception. La fatigue physique. Le stress. Vivre à 200 à l'heure. Cumuler le travail à temps plein en entreprise le jour et le projet Baby Hope le soir. On le sait, de nombreux couples jettent l'éponge au cours de ce parcours de procréation médicalement assistée si difficile et si prenant. Mais pas Flavie qui garde toujours le sourire malgré les épreuves. Alors je lui ai demandé, qu'est-ce qui fait qu'on continue? Qu'est-ce qui vous fait tenir, ton compagnon et toi?
Je sais pas si c'est le bon choix ou pas de continuer. C'est vrai que je me suis posé la question. Forcément à un moment donné sauf que pour moi ça me mettait en état de stress intense, crise d'angoisse, le fait de me dire que je pouvais avoir une vie sans enfant, ça m'angoissait de dingue en fait. Donc pour moi c'était vraiment pas possible, j'avais vraiment envie de cet enfant et surtout ce que j'avais goûté avec ma première grossesse, je me disais mais ça vaut tellement le coup que je peux pas m'arrêter sur ça, a marché une fois, ça va remarcher, enfin ouais, tu te gardes ça en tête. Je voulais pas avoir le regret d'arrêter avant toutes les possibilités. Je voulais aller au bout des choses. Ce qui commençait à me stresser en fait à ce moment-là, c'est que donc tu arrives à la FIV 2 qui est négative. Tu te dis waouh, en plus je vieillissais un petit peu, donc je faisais pas autant d'embryons qu'avant, donc j'avais qu'un essai par FIV. Donc ça va très vite. Et là je me disais mais en fait on fait quoi quand on va arriver à la fin des 4 FIV quoi. Et on avait pas vraiment engagé la conversation avec mon mari, quoi. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Après, c'est soit les dons d'ovocytes, les dons de sperme, les dons d'embryons à l'étranger. Soit c'est du coup l'adoption. Soit t'arrêtes. Bon, l'adoption, on en avait discuté parce que c'est vrai qu'avec du coup mon compte Instagram, je fais beaucoup de lives et qui me servent beaucoup parce que du coup j'avais interviewé une maman qui avait adopté et je m'étais rendu compte et on en avait discuté avec mon mari que c'était pas notre façon de voir la maternité. C'était trop dur pour nous. Et mon mari était pas très ouvert à ce moment-là aux dons. Donc j'étais mais en fait ma vie va être foutue du moment où je vais avoir fini les quatre fifs, quoi. C'est waouh, quoi. Enfin, ça me mettait un stress de dingue. Ça a été très dur dans notre couple. On a eu quand même à un moment donné une grosse crise aussi parce que mon mari voyait aussi dans quel état je me mettais. Ça faisait des années que ça durait. Lui, il aurait pu vivre une vie sans enfant. Lui, le plus important, c'était nous, qu'on soit en bonne santé, nos projets. Et il voulait pas qu'on se rende malade pendant 20 ans pour avoir un enfant, quoi. Sauf que on n'était pas encore trop sur la même longueur d'onde à ce moment-là, donc ça a été beaucoup de discussions et tout ça jusqu'au moment où vraiment il a été ouvert grâce à des lives que j'ai fait aussi sur mon compte, il a été ouvert à la possibilité de don. Pour moi, ça a été un soulagement de me dire que si jamais j'arrive à la FIF 4 et que ça marche pas, que derrière j'ai la possibilité de quelque chose. Je sais pas quoi, on sait pas quoi encore, mais le fait qu'il y ait quelque chose derrière. Donc, pour moi, je voulais tout essayer. De toute façon, je me serais pas arrêtée tant que physiquement aussi, je tiens le coup. Parce que ça, c'est important aussi.
Alors, pour continuer la PMA, Flavie s'impose une pause. Enchaîner les fives et les transferts alors que le travail est trop prenant et génère trop de stress, c'est non, elle dit stop. Continuer, oui, mais dans de bonnes conditions. À l'été 2021, suite à un transfert qui n'aboutit pas sur une grossesse, elle décide de mettre la PMA entre parenthèses, le temps de reconsidérer sa vie professionnelle. Au mois de janvier suivant, elle quitte son poste pour se consacrer à 100% à Baby Hope, mais aussi pour se consacrer à 100% à son espoir d'avoir un bébé et reprendre le chemin de la PMA début 2022. Reprendre le chemin de la PMA en cachette. Car depuis les débuts de Baby Hope il y a 3 ans, Flavie a beaucoup documenté son parcours sur Instagram. Les échecs, les espoirs, le changement de centre, les protocoles, les transferts, rien n'est tabou. Mais cette fois-ci, pour cette 3e FIV depuis 2018 et la 6e depuis le début de son parcours, elle ressent le besoin de se mettre dans une bulle.
Pendant 6 mois, je savais que dans tous les cas, il n'y aurait pas de PMA, quoi. Ben, ça m'a fait un bien fou, en fait. Parce que tu te dis... allez là, t'as rien à t'occuper, t'as pas de rendez-vous, t'as tes règles, forcément t'as tes règles. Tu le sais quoi. Et ça fait du bien aussi de un peu lâcher prise là-dessus. Mais oui là, du coup janvier, quitter mon boulot, même si ça a été le cœur serré parce que j'adorais mon entreprise où j'étais avant, mais j'avais besoin de faire ce choix pour moi, pour ma santé physique et mentale. Donc trop bien de tout quitter, d'être enfin maître de ta vie, de pouvoir maîtriser tes journées, te reposer, d'avoir un rythme en fait de vie normal et plus être à 200 à l'heure quoi. Ça fait énormément de bien. J'avais envie de repartir sur une nouvelle année, la 2022. Flavie toute neuve, qui prend soin d'elle enfin. Parce qu'en fait, je dis à tout le monde de prendre soin de soi, mais moi, je le fais pas. Enfin, retour à la PMA, du coup. Parce que je me dis, ça y est, là, je suis dans des bonnes conditions. Maintenant, go, quoi, parce qu'on va pas perdre non plus l'année avec, on va pas attendre 6 mois non plus pour commencer à reprendre les essais, quoi. Donc, du coup, j'ai pu reprendre au mois de février. En cachette. Évidemment, je partage beaucoup sur Instagram. Le but aussi, c'est de lever le tabou, de montrer un peu à tout le monde ce qu'on peut vivre. Mes derniers protocoles, je les ai partagés sur Instagram au jour le jour. C'est chouette parce que du coup, tu as beaucoup de soutien, mais aussi, ça te met une mini pression. Je l'avais dit sur Instagram, les 6 premiers mois, les filles, je me laisse vivre. Je fais mes trucs à moi. Je vous dirai plus tard, du coup, au mois de juin, là. Ce qu'il en est. Là, je veux le vivre que moi et mon chéri. Tranquille, en secret. Je reprendrai quand je suis prête. Enfin, voilà. Donc en février, du coup, oui, j'ai repris en secret. La petite cachetière. Je suis repartie en protocole. Donc, pour cette 3e FIV, Marie-Charlotte, c'était la 3e FIV, vous savez, marché. Donc, c'est vrai que là, cette troisième fille, je me disais, bon, allez, ça y est, on est au même stade que Marie-Charlotte, peut-être que ça sera enfin la bonne. Donc, du coup, bah, je suis repartie en protocole, ça s'est très bien passé, j'ai super bien réagi au traitement, un peu beaucoup, comme pour Marie-Charlotte, parce que bah, du coup, j'étais beaucoup plus reposée, on avait aussi un petit peu augmenté les doses, tout ça, donc j'ai très, très bien réagi, j'ai fait plus d'embryons que d'habitude, j'étais mais juste méga contente, sauf que bah, du coup, pour éviter d'être hospitalisée comme la dernière fois, du coup, là, on n'a pas fait le transfert d'embryon, on a tout congelé. Là, j'étais déjà pas bien à la fin du traitement, donc on s'est dit non, mais là, si je tombe enceinte, là, c'est grosse hospitalisation, donc c'était pas possible. Donc, j'étais un peu déçue, mais je m'étais dit bon, allez, j'ai le temps maintenant, tranquille. Donc, dès que j'ai eu mes règles après, bah du coup, j'ai rappelé le centre en disant bon, du coup, ça y est, j'ai mes règles. Ça se passe comment maintenant la suite, quoi. Puis bah finalement, suite aux prises de sang, bah en fait, mon hyperstimulation était partie. J'ai pu enchaîner de suite. Et puis première fois de toute ma vie, on me dit bah on va essayer sur un cycle naturel. Sans piqûre, rien, pas de piqûre. Et là, tu te dis, waouh, ah bon, truc de dingue. Donc, du coup, on a essayé sur un cycle, donc sans aucune piqûre. Donc, par contre, je te dis pas le nombre de contrôles, échographie, prise de sang pour être sûr de pas louper l'ovulation, quoi. Sachant que moi, mon centre est à Montpellier, est à 3 heures de chez moi. En fait, j'ai quand même mes suivis échographie et prise de sang à Toulouse. Heureusement que j'ai pas 3 heures de route à faire tous les 2-3 jours quand même. Donc là, j'étais bien contente d'être indépendante. J'avoue, là, c'était quand même, ouais, c'était royal. À J25 du cycle, j'avais toujours pas ovulé. Alors que logiquement, t'ovules plutôt à 14, hein, on est d'accord. Donc, j'étais, bah, en fait, le fait que le cycle d'avant, j'ai fait tout mon protocole, ça a dû me dérégler tout mon truc. Je fais, bon, laisse tomber, ça va être une catastrophe. En plus, on devait partir en vacances. J'étais en train de calculer, j'étais, non, ça va tomber pendant nos vacances. Finalement, j'ai eu une piqûre, une seule, juste pour déclencher l'ovulation, pour quand même bien maîtriser à quel moment il fallait se rendre à Montpellier pour avoir le transfert de l'embryon. Et bon, c'est tombé pendant nos vacances, hein, sinon c'était pas drôle. Donc, on devait aller à l'île de Ré, mais finalement, on a fait des vacances du côté du Larzac, donc vers Montpellier. C'est pas grave, on a changé nos plans. Pour la petite anecdote, du coup, notre projet de début 2022, on s'est acheté un van pour voyager, profiter de la vie et tout, tu vois, à fond, quoi. Donc, notre premier voyage en van qu'on avait aménagé, du coup, a été ce week-end où on est allé chercher bébé, du coup, à Montpellier. Donc, c'est assez symbolique. On a fait le transfert, on a continué nos vacances, voilà, je suis allée voir ma famille, tout ça, tout ça. Et une semaine après, en fait, logiquement, tu as la prise de sang 15 jours après. Et une semaine après, en fait, c'était l'anniversaire de mon chéri. Et donc, du coup, je voulais absolument savoir si pour son anniversaire, c'était oui, non. Moi, bon, c'était vraiment le tout début. J'ai fait un petit test pipi et finalement, je sais pas, je le sentais au fond de moi que ça allait être bon. Et il s'avérait que ça a été positif. Donc, je l'ai su la veille, en fait, de son anniversaire. Et comme ça, ça m'a permis de faire une prise de sang la veille et le lendemain, de vérifier que la prise de sang augmente bien comme il faut, parce qu'on a eu plusieurs fois quand même des petites surprises. Donc, en tout, c'est notre 13e transfert d'embryon, hein, en tout. Donc, le chiffre 13 nous aura porté bonheur. Mais voilà, sur les 13, j'ai eu une fois où vraiment donc j'étais enceinte et j'ai dû avoir au moins 4 ou 5 mini-accroches. Le truc où tu as une prise de sang positive et le lendemain, c'est négatif, quoi. J'essayais de me raccrocher au jour par rapport à Marie-Charlotte. Je trouvais que les taux étaient pas mal. Enfin bon, voilà. Donc je l'ai annoncé donc le jour de l'anniversaire à mon chéri. Bon, lui a été pas plus réactif que ça parce que, bah, pareil, les taux étaient tellement petits. Ça lui rappelait tellement de souvenirs que, bah, il avait un peu peur de se projeter. Et donc, du coup, j'ai fait des prises de sang toutes les 48 heures. Pour m'assurer que ça grimpait bien et ça a bien grimpé. J'ai été bien fatiguée, nauséeuse, tout ce qu'il faut, quoi. L'heure où on enregistre, du coup, je suis à 10 SA, donc quasiment à 2 mois. Et tout va bien pour le moment. Tout va bien. Donc c'est trop génial. Franchement, je suis plus qu'heureuse. C'est juste super, quoi.
Et là, l'enregistrement prend une tournure bien particulière. Car si je connaissais le petit secret de Flavie qui m'avait tenu au courant en vue de cet enregistrement, je ne m'attendais pas à la maxi surprise qu'elle m'a faite ensuite. Comme vous avez pu l'entendre en intro, et comme vous l'avez peut-être appris sur son compte Insta, ce n'est pas un, mais deux petits embryons qui se sont nichés dans le creux de son ventre. Au moment de l'enregistrement, Flavie n'a pas encore passé l'échographie T1, la grosse écho du premier trimestre. Mais elle a déjà commencé une nouvelle étape de son parcours. Il y a 4 ans, elle disait au revoir à sa petite fille, à sa petite Marie-Charlotte. Et aujourd'hui, c'est la page de sa grossesse d'après qui est en train de s'écrire.
Alors, pour la petite anecdote, du coup, donc, pour ce protocole, j'ai eu 5 embryons. Et sur les 5, du coup, ils en avaient congelé 2 ensemble. Logiquement, ils les congèlent donc séparément. Et là, il y en avait 2 qui étaient congelés ensemble parce qu'il y en avait un qui était un peu plus avancé que l'autre. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils en ont mis 2 ensemble. Donc, quand on a choisi quel embryon on allait nous transférer, du coup, on a demandé à ce que ça soit les 2 congelés ensemble qui nous soient transférés. Parce que je me suis dit, imagine, là, ça marche. J'ai un bébé. Et puis, dans 2 ans, on veut réessayer. Et là, on se tape des jumeaux. Ça va être un peu compliqué. S'il faut des jumeaux, on va faire ça de suite, quoi. Donc, on a eu les deux petits embryons. Et il s'avère que les 2 se sont accrochés. Donc, j'attends des jumeaux. Donc, c'est trop, trop bien. Bon, on s'en doutait un petit peu avec les prises de sang parce que du coup, les taux étaient énormes. Je cherchais sur Internet, chérie, t'inquiète, il y a des femmes en fonction de leur grossesse, elles n'ont pas les mêmes taux, non. Moi, j'étais persuadée qu'il n'y en aurait qu'un, quoi. Et à l'écho, non, il y en avait bien 2. Donc, au fond de moi, je suis sereine, je me dis que tout va bien se passer, mais forcément, j'appréhende quand même parce que c'est à la T1 où, du coup, on avait détecté la malformation du cœur de Marie-Charlotte. Donc, j'ai hâte de la passer, qu'on me dise que tout va bien, qu'il n'y a rien de particulier pour vraiment, me lancer à 200% dans cette grossesse parce que j'ai toujours ce côté où, voilà, tu te dis, avec tout ce qui nous est arrivé, est-ce que enfin, ça y est on va pouvoir toucher le bonheur du doigt, quoi, ou est-ce qu'il va encore nous arriver un truc? C'est vrai que c'est quand même angoissant. Mais au fond de moi, je sais pas, depuis le début, je suis quand même assez sereine, alors que pour la grossesse de Marie-Charlotte, j'étais depuis le début assez stressée. J'avais toujours peur qu'il y ait quelque chose ou machin, et je sais pas, est-ce que le corps le sent ou pas, on verra. Là, dans 2 semaines, du coup, je vais avoir la T1, j'ai hâte. En plus, ça va ressembler à des vrais bébés, donc j'ai hâte. C'est la pensée. Pour l'instant, ça ne ressemble pas trop à grand-chose. Donc, mais bon, c'est trop chouette.
Il y a 3 jours, Flavie a eu son échographie du premier trimestre et je vous rassure, tout va bien. Et aujourd'hui, lundi 27 juin 2022, cela fait 4 ans que Marie-Charlotte est décédée. 4 années pendant lesquelles Flavie a cheminé à son rythme, franchissant des étapes pour laisser à sa première fille toute sa place dans la famille. Mais des étapes également pour que Marie-Charlotte puisse, en quelque sorte, à son tour, laisser une place à un autre petit bébé. À 2 autres petits bébés.
Il m'a fallu énormément de temps. Je crois qu'il m'a fallu être pour ces 2 ans pour faire son faire-part de naissance et décès. Ça a été une grosse étape pour moi. Un gros regret de ne pas avoir fait de faire-part de naissance, en fait. C'est pour avoir l'impression d'officialiser ce bébé, en fait. Et je l'ai fait, je crois que c'était pour ces 2 ans. Alors, j'ai pas envoyé à beaucoup de personnes, hein, juste à 10 personnes, je crois, à mes parents, frères et sœurs, grands-parents et ma sage-femme. Voilà, le truc, voilà. Mais ça m'a fait un bien fou, déjà, d'avoir l'impression de reconnaître cet enfant et de faire aussi son faire-part de décès, tu vois. Donc ça m'a aidé aussi dans mon deuil. Et tu vois, c'était quand? C'était en octobre, je crois, dernier. Donc, tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai vendu toutes les affaires de Marie-Charlotte. J'avais mes placards remplis parce que, évidemment, moi, j'ai accouché à terme, tout ça. Donc, on avait tout pour elle. J'ai vendu toutes ses affaires parce que c'est pareil aussi. En fait, quand je me projetais sur un nouveau bébé, inconsciemment, tu avais l'impression que c'était elle qui allait revenir parce que toutes ses affaires étaient là. Enfin, je veux dire, c'était un peu bizarre comme sensation. Et je me suis dit non. Je veux vraiment laisser de la place à ce nouveau bébé. J'ai tout vendu, et je pense que ça m'a aidée aussi à tomber enceinte parce que je pense que j'étais prête à avoir un autre enfant, un enfant différent. Voilà. Donc, si je peux aussi apporter un peu d'espoir à certaines femmes ou certains couples qui perdent leur enfant, c'est que n'attendez pas au bout de un mois à avoir fait forcément votre deuil. Ça prend énormément de temps. On est tout à notre rythme. Et bah, moi, il m'aura fallu, toi, 3 ans et demi, je pense, réellement, pour faire mon deuil.
Quand tu dis faire ton deuil, ça signifie quoi pour toi, faire ton deuil? Accepter quelle est sa place à elle et qu'elle ne reviendra pas? Accepter de vivre avec ça et te projeter dans une autre grossesse? C'est quoi pour toi? Ça veut dire quoi?
Moi, je pense que c'est accepter qu'elle ne reviendra pas, tu vois. C'est plus ça. C'est plus ça. Parce que pourtant, j'ai envisagé déjà une nouvelle grossesse et tout, mais je sais pas. Ouais, de la laisser, tu sais, vraiment partir. Mais même dans ma tête, dans mon inconscient, c'est-à-dire au lieu de l'avoir toujours proche, mais vraiment proche, proche de moi, vraiment me dire, voilà, ça y est. Maintenant, elle fait sa vie, je fais la mienne, quoi. Mais c'est vrai que pendant longtemps, en fait, je la faisais vivre encore et comme si elle était pas loin, tu vois. Et je sais pas comment expliquer ça, mais et là, maintenant, dans ma tête, c'est voilà, Marie-Charlotte, elle a été là, mais je pense que ça y est, j'ai accepté aussi que son histoire, bah voilà, c'est fini. Maintenant, c'est notre ange gardien. Elle veille sur nous. Voilà, elle sera toujours là, mais ouais. Ça serait ça, ouais, pour moi.
Cet épisode touche à sa fin et je te remercie énormément, Flavie, pour ton immense confiance. Merci d'avoir partagé avec nous ton parcours de la combattante, ton histoire, ou plutôt tes histoires de PMA. Je te souhaite le meilleur pour ce nouveau chapitre de ta vie et toutes mes pensées s'envolent en ce 27 juin vers Marie-Charlotte. Si vous souhaitez en savoir plus sur Flavie et son parcours, n'hésitez pas à vous rendre sur le compte Instagram babyhope.fr. Je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à ce projet une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Pour m'aider à financer le podcast et les dépenses qui y sont liées, vous pouvez aussi me donner un petit coup de pouce sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Rendez-vous sur tipeee.com/au revoir podcast pour en savoir plus. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode inédit. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Au Revoir Podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.